Dans l'évangile de Jean, au chapitre 21, les versets 1 à 17. Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples, à la mère de Tibériade. Voici comment il se manifesta. Simon-Pierre, Thomas, Nathanaël, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit « Je vais pêcher ». Ils lui dirent « Nous venons avec toi » et montèrent dans le bateau. Mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se tint debout sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Et Jésus leur dit « Mes enfants, avez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent « Non ». Il leur dit alors « Jetez le filet à droite du bateau et vous trouverez ». Ils le jetèrent et ils n'étaient plus capables de le retirer tant il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre « C'est le Seigneur ». Quand Simon-Pierre eut entendu que c'était le Seigneur, il attacha son vêtement à la ceinture et il se jeta à la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, entraînant le filet plein de poissons, car ils n'étaient pas loin de la terre. Lorsqu'ils furent descendus, ils voient là un feu de braise, du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit « Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre ». Simon-Pierre monta dans le bateau et tira à terre le filet plein de 153 gros poissons. Et quoiqu'il y en eût tant, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit « Venez déjeuner ». Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu ?» car il savait que c'était le Seigneur. Jésus vient, prend le pain et le leur donne, ainsi que le poisson. Après qu'ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus qu'eux ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais bien, toi, que je suis ton ami. » Jésus lui dit alors, « Prends soin de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ?» Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais bien, toi, que je suis ton ami. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes moutons. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, es-tu mon ami ?» Et Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « Es-tu mon ami ?» Il lui répondit, « Seigneur, toi, tu sais tout. Tu sais bien, toi, que je suis ton ami. » Et Jésus lui dit, « Prends soin de mes moutons, prends soin de mes agneaux. » Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Voilà résumé à travers une histoire rafraîchissante d'embrun et de grillade sur la plage, je dirais l'essence de la foi chrétienne. Nous avons affaire ce matin, je crois, à de la bonne théologie racontée en des termes simples qui puissent être comprises par tous. Ce pourrait être un catéchisme pour pêcheurs-pêcheurs. Trois termes émergent ici, sur lesquels je vous propose de nous arrêter ce matin. Le don, la reconnaissance et l'action. Le don de la grâce, d'abord, à travers l'image d'une pêche miraculeuse dont on voit bien qu'elle dépasse les espérances de ceux qui ont faim. Une grâce qui déborde littéralement de ce filet. Les dons de Dieu sont tels que nous ne les mesurons pas, et comment le pourrions-nous ? Le texte précise le nombre de poissons comme si cela avait une importance, 153. Alors on peut se demander ce que ce nombre évoque, 153.
Je propose, sans trop en être certain, que 153, ce pourrait être un petit peu plus que le chiffre de la plénitude au carré. Ça pourrait être 12 fois 12. Et puis comme on est comme ça dans le Nouveau Testament, ces cadeaux, on en rajoute quelques-uns pour bien montrer que, voilà, on n'est pas à quelques poissons près. La reconnaissance, ensuite, de ces hommes qui sont proprement saisis par quelque chose qui les dépasse, certes, mais qui ont su reconnaître le Maître et qui professent alors, à l'instar de Pierre, leur amour du Seigneur. Cette fois, ils ne sont pas aveugles, comme ils l'ont été trop souvent. Ils voient clair maintenant. Et cette apparition du ressuscité agit ici comme une confirmation. Plus d'effroi, ni de doute, mais la confiance de ceux qui connaissent et reconnaissent le Messie. Et l'action, enfin, car comme nous allons le voir, l'Évangile est une bonne nouvelle qui comble et qui délivre, mais qui du même coup se fait exigence. Et Jésus, ici, nous le rappelle, quitte à insister lourdement. J'ai tout d'abord parlé de la grâce à travers ce miracle, mais peut-être réside-t-il ailleurs le signe de cette grâce dans le comportement de Pierre. Pierre, vous le savez, alors je dis souvent « vous le savez », ça énerve peut-être certaines personnes, alors peut-être que vous ne le savez pas. Pierre, vous ne le savez peut-être pas, c'est le représentant des 12 qui va être appelé à la plus haute responsabilité. C'est celui qui est plein d'élan pour s'engager, toujours plein de zèle. Le texte nous dit même qu'il se jette à l'eau, il en fait toujours un petit peu trop, Pierre. C'est le premier de la classe, un peu énervant pour les autres. Mais Pierre, c'est aussi le présomptueux qui affirme que même si les autres trahiront Jésus, lui ne le trahira jamais. Et le lâche qui se défaussera par 3 fois. Pourtant, se reconnaissant pécheur, il pleure amèrement, et dans notre texte, son triple témoignage, sa triple déclaration d'amour vient annuler finalement son triple reniement. C'est l'amour de la reconnaissance, l'amour du disciple pour son maître. Et c'est, si l'on y réfléchit bien, le sens de la louange dans notre culte. La louange qui se fait expression de notre reconnaissance et de notre amour que nous élevons vers Dieu à travers notre prière, à travers nos chants. Dans notre texte, elle est manifeste, elle est limpide dans la bouche de Pierre. Et on pourrait dire que le texte pourrait s'arrêter là. L'auteur aurait pu être content de lui et se dire qu'il a réussi là une jolie narration qui contient l'essentiel du message qu'il veut transmettre. Il y a tous les ingrédients pour faire une bonne parabole, il y a un cadre narratif, il y a un gros problème, et puis il y a un miracle qui résout le problème. Et tout le monde finit autour du feu en mangeant des sardines grillées. C'est parfait. Mais non, il y a quelque chose de plus. L'injonction de Jésus qui dit à Pierre, qui lui ordonne même, « Prends soin de mes agneaux ». Et c'est cette phrase qui nous interpelle ce matin. Prends soin de mes agneaux. Chaque dimanche, nous annonçons la rémission des péchés et le salut par la grâce, car nous sommes persuadés que l'amour de Dieu ne s'achète pas, mais qu'il est un don qui nous dépasse et que nous ne méritons pas. Comme Simon, Thomas, Nathanaël, Jean et les fils de Zébédée, nous sommes conscients de la grâce de Dieu qui nous comble au-delà de nos espérances, à l'image de ce filet qui est trop plein. Et les protestants, c'est bien connu, sont devenus les experts de la grâce, qui aiment bien, plus souvent qu'à leur tour, expliquer à tous les autres ce qu'ils n'ont pas bien compris de ce qu'elle signifie. À tel point, peut-être, parfois, qu'ils en oublient la conséquence, car elle n'est pas, cette grâce, sans conséquence. Caspar Olivianus et Zacharias Ursinus, que vous ne connaissez peut-être pas, en sont conscients. Quand en 1563, il rédige la 86e question du tout premier catéchisme réformé, le catéchisme de Heidelberg. Alors je vous lis cette question. Il y en a 86, je vous épargne les 85 premières. Puisque nous sommes délivrés de notre misère, sans aucun mérite de notre part, par la grâce du Christ, pourquoi devons-nous faire de bonnes œuvres ? Réponse. Parce que le Christ, après nous avoir rachetés par son sang, nous renouvelle aussi par son Saint-Esprit à son image, pour que nous nous montrions reconnaissants envers Dieu pour ses bienfaits par toute notre vie, et en outre nous le glorifions pour que nous aussi nous soyons assurés de notre foi par les fruits qu'elle porte, et que par la sainteté de notre conduite, nous gagnions nos prochains à Christ. Voilà ces questions qu'aujourd'hui, heureusement ou malheureusement, on ne demande plus à nos catéchumènes d'apprendre par cœur. C'était le cas il n'y a encore pas si longtemps. Le catéchisme de Heidelberg est toujours d'actualité. Vous pouvez le trouver facilement sur Internet. Il existe en PDF, libre de droit, si vous voulez faire connaissance avec ce texte, qui a été utilisé, donc je le disais, dans toutes les églises de la Réforme, jusque dans les années 50, 60. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il fait un peu peur l'usage de termes auxquels nous ne sommes plus habitués, repousse quelque peu les jeunes catéchumènes auxquels nous nous adressons, et donc on a préféré, après quelques siècles, renouveler le vocabulaire. Alors, cette 86e question est un peu plus compliqué que la parabole, plutôt l'histoire que j'ai lue à l'instant sur le miracle de Jésus. Vous le sentez, on est passé d'un texte pour analphabète, quasiment, à un enseignement protestant classique du XVIe siècle, mais tout y est. Les poissons, le « je t'aime » et le « prends soin de mes brebis ». Les trois sujets que je mentionnais au début de cette prédication sont bien présents dans la volonté de transmettre la foi protestante réformée classique. La grâce, la reconnaissance et l'action. Mais l'enseignement exprimé à la fois dans l'histoire de Jean et dans le catéchisme, malgré les années qui nous séparent, nous concerne encore aujourd'hui. Au fond, il s'agit de l'idée selon laquelle, pour faire très court, on n'est pas quitte avec Dieu. On ne peut pas être quitte avec Dieu. Certes, nous ne pouvons pas acheter son amour par nos actions, mais de même, nous ne pouvons pas nous dédouaner de nos responsabilités sous prétexte qu'il nous a aimés le premier gratuitement. Cette idée, aujourd'hui, est à mon avis pertinente. Et je me désole de voir parfois dévaluer la puissance de la grâce et ce qu'elle implique au prétexte qu'elle est offerte et qu'il suffirait de la demander pour la recevoir, ce qui est vrai. Combien de fois ai-je entendu le bon protestant me dire que la grâce était offerte avec la certitude qu'il s'agissait en fait du dernier acte du dialogue que Dieu engage avec nous. Et non, frères et sœurs, Dieu ne nous offre pas la grâce pour solde de tout compte. Comme je suis assez content de cette phrase, je la répète. Dieu ne nous offre pas la grâce pour solde de tout compte. Jésus, dans notre texte, attend beaucoup de Pierre. Et à travers Pierre, beaucoup de chacune et de chacun. Pour le dire en une formule, ce n'est pas parce que l'engagement découle de la grâce qu'il n'est pas obligatoire. Alors dire ça aujourd'hui, c'est prendre le risque inconsidéré de culpabiliser les gens, ce qui est considéré comme un crime de lèse-majesté. Il ne faut surtout pas. Je ne veux pas vous culpabiliser, rassurez-vous. Dites à quelqu'un que votre belle-mère vous culpabilise et vous aurez tout de suite sa compassion ultime, car elle vous dira, pour l'avoir vécu elle-même, qu'elle sait ce que vous ressentez. Et croyez-moi, ce n'est pas ce que je veux provoquer chez vous ce matin. Mais c'est pourtant ce que les réformés appellent, depuis maintenant quelques siècles donc, le troisième usage de la loi. C'est-à-dire un usage reconnu et utile de la loi, après, classiquement, ce qu'on appelle l'usage civil, c'est-à-dire l'usage du pouvoir politique, l'usage qui fait régner l'ordre dans la cité, l'usage théologique qui nous rappelle, grâce à la loi, que nous ne sommes pas parfaits et que donc nous avons peut-être intérêt à nous enquérir de ce que Dieu attend de nous, car nous sommes incapables de le faire par nous-mêmes. Le troisième usage, donc, l'usage didactique, qui permet aux chrétiens de connaître la volonté de Dieu et de la mettre en pratique, de passer à l'action comme Dieu l'ordonne. C'est que les réformés, dès le début, un peu en réaction à certaines extravagances évangéliques de l'époque de la Réforme, ont tenu à insister sur le fait que la grâce coûte quelque chose. Et c'est la raison pour laquelle, depuis plusieurs siècles, nous voulons professer une foi incarnée dans le monde et non pas retranchée derrière les murs d'un monastère. C'est pour ça que nous professons une foi engagée dans la cité, au risque de déplaire, car nous croyons à la force de la parole. Nous croyons que notre foi doit avoir des répercussions sur notre manière d'agir au quotidien, et sans que pour cela nous ayons besoin de nous cacher. Faust, le personnage bien connu de la littérature allemande, dit dans son travail sur la connaissance, à la fin de sa vie, « Je vois que nous ne pouvons rien savoir. » C'est là un résultat, la somme d'expériences vécues, quelque chose de fondamentalement différent de ce que ce serait si la même phrase était prononcée par un étudiant au premier semestre, au bout de la première semaine, qui dirait « J'ai fait le tour, je vois que nous ne pouvons rien savoir. » En tant que résultat, la phrase peut être vraie et prétendre à une dimension philosophique, mais en tant qu'hypothèse, vous sentez qu'elle ne devient alors qu'une imposture. Et c'est la même chose, mutatis mutandis, en changeant ce qui doit être changé, c'est la même chose pour la grâce. Dans une de ses œuvres majeures, Dietrich Bonhoeffer, dont nous chanterons tout à l'heure un cantique dont il a écrit les paroles, a montré avec quelle facilité il nous est possible de nous cacher derrière la gratuité de la grâce et de lui nier toute conséquence, avec quelle aisance, et je me compte parmi le nombre de ceux qui sont concernés, soyez-en certains, avec quelle aisance nous lui refusons sa noblesse en renonçant à l'engagement et l'obéissance qui doivent en découler. Avec quelle aisance je lui refuse sa noblesse en renonçant à l'engagement et à l'obéissance. Je répète, pas de culpabilisation ici, qui serait un peu bon marché, mais le désir de rappeler avec l'humilité de celui qui se sait concerné que le monde attend des signes de notre engagement au nom de nos convictions. C'est que le monde est au courant, figurez-vous, et que ce catéchisme de Heidelberg, comme cette histoire racontée par Jean, ne sont pas confidentielles. Elles ont fait le tour du monde et elles sont connues. Et il n'est plus rare d'entendre des gens dire « Mais vous, chrétiens, qu'avez-vous à dire, qu'avez-vous à faire sur ce sujet ?» Soyons donc de ceux qui reconnaissent la grâce jusque dans l'appel à l'obéissance et l'engagement, où la grâce même devient cet appel, car c'est une chance d'être appelé. Après avoir largement bénéficié des poissons, après avoir loué Dieu en lui disant « Je t'aime », à nous, chrétiens rassemblés ce matin, à nous, Église du Bouclier, de répondre à l'appel. Prends soin de mes moutons, prends soin de mes agneaux. Je ne me contente pas de penser que cette injonction n'est adressée qu'à celui qui deviendra la tête de l'Église. Je prends cette injonction pour moi-même. Je la fais mienne ce matin. Alors c'est vrai, ce n'est pas rationnel du tout d'aimer ses ennemis. Ce n'est pas rationnel d'accueillir toute la misère du monde. Mais je crois que Jésus n'était pas rationnel. Et sa mort ignoble, ainsi que le pardon des péchés dont nous bénéficions par pure grâce, ne sont pas rationnels eux non plus. Pour filer la métaphore marchande, nous ne sommes pas là en train d'effectuer des comptes d'apothicaire. Nous savons ce que Dieu attend de nous. À nous maintenant d'être au rendez-vous. Et je voudrais terminer ce matin en vous lisant ces versets que nous trouvons dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25. « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison. Et vous êtes venu me voir. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger ou avoir soif ? Et t'avons-nous donné à boire ? Quand avons-nous vu étranger ? Et t'avons-nous recueilli ? Ou nu ? Et t'avons-nous vêtu ? Mais quand avons-nous vu malade ? Ou en prison ? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela pour l'un de ses plus petits, l'un de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Jésus, celui qui nous rassemble ce matin, celui qui rassemble les enfants, qui rassemble les parents, celui qui rassemble ceux qui ne sont plus enfants et qui ne sont pas parents, celui qui rassemble finalement tellement largement autour de lui, est l'archétype de l'étranger. Il quitte la maison de son père et vient naître dans une bergerie puante. Il doit fuir en Égypte, dès sa naissance. Il est considéré comme un enfant illégitime et dans son ministère, on le traite constamment d'hérétique pour finalement le tuer car il dérange. Toute son histoire et sa fin tragique nous montrent à quel point vraiment il a été étranger sur cette terre. C'est peut-être pour ça qu'il insistait autant. Amen.